Les contes de fées, le magazine scientifique de la formation. Les fées ne parlent pas, disait le mathématicien Henri Poincaré. Il répondait ainsi à Plaute, le dramaturge, plus de 2000 ans après, quand il disait « les fées parlent d'eux-mêmes ». Et Henri Poincaré ajoutait dans « La science et l'hypothèse » en 1902 « On fait la science avec les faits, comme on fait une maison avec des pierres. Mais une accumulation de faits n'est pas plus une science qu'un tas de pierres n'est une maison. On a besoin, il nous faut raconter les faits pour leur donner vie, les animer. Raconter, c'est enseigner. Donner un sens aux signes. Mais raconter, c'est aussi s'amuser, muser, errer ensemble dans le labyrinthe des idées. Ce que le physicien David Bohm appelait la danse de l'esprit. Seule notre espèce aime raconter des histoires, constatait le paléontologue Pascal Pic. Alors racontons des histoires. La science et la fiction font bon ménage pour interroger l'action et la formation. Bonjour, mon nom est Stéphane Diebold. Notre épisode s'intitule aujourd'hui « Comment apprendre la musique ?» Qu'est-ce qu'on apprend ? Pourquoi apprend-on la musique ? Quelle pédagogie pour apprendre efficacement ? Et quelles conséquences on peut avoir, en tirer, pour d'autres formes d'apprentissage ? La musique a une forme particulière dans l'Odyssée de l'espèce. Quand a commencé la musique ? La France est originale grâce aux pionniers de ce domaine, qui est Pascal Dauvoy, qui a créé l'archéologie acoustique. Il a créé d'ailleurs le terme « Homo musicus » dans les années 80. Le problème de la musique, c'est que la musique ne laisse pas de traces. Elle est éphémère, elle est sur l'instant présent. Donc pour appréhender la musique, il faut ressaisir les traces qu'elle nous laisse. Et les traces qu'elle nous laisse, ce sont les instruments de musique. Alors les instruments de musique, il y a toute une flopée d'instruments de musique, allant du plus simple au plus compliqué, et suivant les régions avec des spécificités, jusqu'à des civilisations autour de la musique. Le plus simple, c'est celui qu'on a trouvé en 1860 dans la grotte d'Aurignac, qui était une phalange sifflante, c'est une phalange de rennes qui était percée d'un trou et qui permettait justement d'émettre un son. C'est un outil travaillé. Alors, on ne sait pas trop à quoi il servait, puisqu'on n'avait pas les usages, mais on peut supposer que soit ça servait pour appeler les oiseaux, soit ça servait pour appeler les loups qui pouvaient commencer à être domestiqués dans la région. Donc, ces outils très simples ne sont pas les seuls éléments qu'on puisse avoir, puisqu'il y a d'autres outils qui sont beaucoup plus anciens. En 2008, on a retrouvé dans le Jura allemand, donc c'est très récent comme date, on a retrouvé trois flûtes, dont une de plus de 20 cm, 22 cm exactement, avec 5 trous. C'était composé dans des os de vautours fauves, et donc les trous étaient positionnés pour atteindre des sons de musique bien identifiés, bien spécifiques. Donc il y avait déjà une expérimentation de l'outil avant cette date. Cet outil a été le plus ancien outil de musique trouvé au monde, a été considéré dans les années 35 000, 40 000 ans avant notre ère. Donc, pour connaître un peu l'usage et s'interroger sur l'usage, il y a la très très belle expérience de Hubert Thiel, qui en 2014 en Nature, a lancé le mouvement de « Le chant des grottes », qui est financé par l'Europe. Il reprend des instruments de musique qui sont connus de l'époque. Il leur donne vie. Il essaye de composer une musique à travers les sons. Il essaye d'harmoniser pour voir les résonances que cela peut avoir. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas de la musique de l'époque qui n'était pas écrite, mais ça permet de voir, d'entendre des résonances qui permettent de s'imaginer qu'était la musique à l'époque. La musique, c'est important. C'est important parce que le psychocognitiviste Steven Pinker dit que la musique est une construction de l'esprit. C'est une construction savante, pour reprendre son terme. Autrement dit, ce n'est pas par hasard que c'est né au même moment qu'est né le langage, comme on a pu le voir dans une émission précédente. D'ailleurs, le parallèle entre musique et langage est assez proche, puisque s'il existe des notes, il existe dans le langage des phonèmes, qui sont des éléments simples qu'il faut réorganiser pour constituer des mots, pour constituer des phrases, des syntaxes, des récits complets. Eh bien, la musique est dans le même ordre d'idées. Et donc, le fait de mélanger ça, et ce qui est dominant aujourd'hui, c'est le fait de dire que c'est un jeu de l'esprit qui permettrait de montrer des facultés à organiser les notes et qui montrerait que l'homme a atteint un degré d'esthétisation des sons. Une autre façon de se dire que de par le langage. Richard Wagner disait « La musique commence où s'arrête le pouvoir des mots. » On est sur cette même idée de dire qu'on se dit sans se dire. Michel Dauvoy, en 1988, va beaucoup plus loin dans le bulletin de la Société préhistorique française en disant qu'il existe une forte corrélation entre la sonorité et l'œuvre picturale. Et ça va bien dans cette idée-là de cette culture naissante de l'homme. Et si on reprend les travaux de Rupert Tilt, qui a construit des cartes de résonance des grottes qu'il a étudiées, des grottes dans lesquelles il a chanté, il a joué des instruments de musique, il se dit, on se retrouve avec différentes sonorités, mais chaque fois, il y a des endroits qui sont étudiés de la façon suivante. Il y a des endroits qui sont très intimistes, et d'ailleurs, ce sont des endroits où on ne peut pas être à plusieurs. C'est là où souvent on se retrouve dans ces endroits reculés avec les mains appliquées, souvent quand on voit dans les dessins. Alors que dans les endroits qui sont beaucoup plus importants, on se retrouve avec des grandes fresques d'animaux, de chasse, etc. Sur le fait de dire que c'était là peut-être où, de par la résonance optimale, on avait la possibilité de faire des grands messes, des grands rituels de rassemblement où là, la musique était partagée, était socialisée. Donc on s'aperçoit que la musique était peut-être beaucoup plus importante qu'on ne l'a jamais imaginé. D'ailleurs, à telle enseigne qu'aujourd'hui, Rupert Thiel propose à l'Europe de financer des travaux de protection des sites acoustiques. C'est-à-dire, au lieu de rajouter des morceaux qui cassent les résonances des grottes, eh bien, c'est de tenir compte de cette composante pour justement essayer de préserver ce qu'on connaît encore mal de ces cultures à l'époque. Autrement dit, tout reste à imaginer, tout reste à raconter dans l'usage qu'on avait à l'époque de la musique. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Hérophile, qui était médecin, était celui qui a découvert le pouls de l'homme, et donc il s'était aperçu que à la fois le pouls de l'homme était singulier, chaque homme avait son propre rythme, et donc son analyse était de dire que c'est le pouls de l'homme, c'est la musique de l'homme dans le monde, et c'est la musique de l'homme, et c'est la musique de l'homme en harmonie avec le monde. Et quand le pouls est en harmonie, alors l'homme est à sa place, ce qu'on retrouve beaucoup dans des logiques de la cosmologie antique, trouver sa place dans le monde tel qu'il est. Autrement dit, l'idée de la musique suppose, Jean-Claude Amezen a ce mot qui est assez joli, le monde a un chant, un bruitage qui est ordonné d'une certaine façon, une rivière qui coule, qui s'emballe, qui se ralentit, du vent dans les arbres, des feuilles qui craquent. Le monde a du bruit, qui est une chanson, qui est mise en musique. Et donc, le but de la musique, ça serait de nous permettre de revenir à ce qu'on était à l'origine, c'est-à-dire de revenir à une harmonie avec le bruit du monde. Donc, on n'est pas très très loin de ce que Hérophile proposait. On se retrouve d'ailleurs dans la même démarche avec ce que les sensualismes disent en disant « la musique n'est en rien un savoir », même s'il existe un savoir et même si certains ont tenté de le théoriser, ce n'est pas un savoir quand on écoute de la musique, c'est une connaissance puisqu'on la ressent, c'est un savoir intime, c'est une connaissance personnalisée. Voilà. Ce que Emmanuel Kant appelait le langage des émotions. Et comme aujourd'hui, on n'est pas encore capable de bien comprendre la place des émotions, même si aujourd'hui, beaucoup de choses ont été découvertes, comme on en parlera dans une prochaine émission. Alors, on n'a toujours pas répondu à notre question, pourquoi écouter de la musique? Et les neurosciences nous apportent un regard d'ailleurs, qui permet d'apporter une réponse qui est assez intéressante, qui consiste à dire, eh bien, tout simplement, pour le plaisir. En 1999, une première étude de Robert Zator et Anne Blood à Montréal a fait la connexion entre la musique et le plaisir. On la retrouve dans Nature Neuroscience. Ils reprennent par là même les travaux de James Holtz en 1954 sur le circuit de récompense. C'est une expérience qui est connue, qui consiste à permettre d'implanter des électrodes sur le noyau accumbens d'un rat. Faire en sorte que le rat puisse s'auto-stimuler pour produire de la dopamine, donc du plaisir, donc l'hormone du plaisir. Et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, le rat a ce comportement un peu particulier auquel James Holtz ne s'attendait pas. C'est le fait de se dire que le rat préfère le plaisir pour le plaisir. Et donc, il s'enferme dans un monde du plaisir plutôt que de continuer à vivre, à telle enseigne d'ailleurs, qui ne se nourrit plus. Et donc, c'est comme ça qu'on analyse un peu les phénomènes de drogue, c'est-à-dire cette accoutumance où on se laisse aller sur la quête du shoot, sur ce qu'on appelait le système hédoniste, c'est-à-dire ce circuit de récompense en disant « je veux ce plaisir-là ». Et bien dans la musique c'est pareil, la musique avec le noyau accumbens permet justement d'être le lieu de l'émotion et donc on reçoit en pleine figure une émotion, un langage qu'on entend grâce à la musique. Et puis on s'était arrêté là, jusque 12 ans après, en 2011, Valérie Salimpour, toujours dans Nature et Neuroscience, va plus loin et apporte une nouvelle réponse, plus riche. Alors bien sûr, elle valide ce qui était dit précédemment, mais elle va plus loin et elle reprend l'idée d'Alain Berthoz, du Collège de France, qui disait « le cerveau est un prédicateur ». Il dit ça en 2006. Il dit « le cerveau est un prédicateur » et donc c'est ce rôle d'anticipation, le simulateur, qui fait qu'en fait, il existe non seulement le plaisir du noyau accumbens, mais il existe aussi le noyau coudé, qui crée aussi de la dopamine, de l'endorphine, de la morphine donc endogène, pour justement être capable de se dire, le cerveau se dit, et quelle sera la prochaine note? Et donc anticipant l'enchaînement des notes, étant surpris parfois par une note, il découvre le plaisir d'avoir raison, le plaisir de mieux comprendre la musique, le plaisir de mieux lire ce langage, et donc c'est ce qui permet aussi d'avoir ce jeu d'intellectualisation dans la connaissance du plaisir. Et donc ça veut dire que ça donne un élément supplémentaire. Alors évidemment, c'est une idée complètement intéressante qui reprend quelque chose d'assez ancien, hein, puisqu'on se retrouve dans l'Odyssée d'Homère, avec Ulysse, les fameuses sirènes, qui reprend cette idée-là. Mais là, les neurosciences valident la démarche, ce qui est parfois, donc il faut lire les anciens pour être capable de valider ce qui se dit aujourd'hui. Une très belle analyse de la musique des sirènes a été donnée par Maurice Blanchot dans un livre, Le Livre à venir, qui était en 1959. Il disait « Les sirènes, il semble bien qu'elles chantaient, moins d'une manière qui ne satisfaisait pas, qui laissait seulement entendre dans quelle direction s'ouvriraient les vraies sources et le vrai bonheur du chant. Toutefois, par leur chant imparfait, qui n'était qu'un chant encore à venir, elle conduisait le navigateur vers cet espace où chanter commencerait vraiment. » Autrement dit, ce chant à venir, cette façon de donner l'envie, hein, de ce qu'on n'a pas pu rencontrer, ce serait sans doute la façon de penser la musique. Pascal Quignard va plus loin en disant « Le but de la musique, c'est d'attirer l'autre. » d'entrer en résonance avec l'histoire de son monde intérieur. Léonard de Vinci disait « Savoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau des autres. » posséder, outre le sien, le cerveau des autres. Donc être capable de lire dans l'autre, d'être en empathie, d'être un empathe. Voilà. Et ça serait la façon dont la musique nous permet d'arriver à voyager seul chez l'autre. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui avec les cartes sensorielles primitives. La carte sensorielle primitive, c'est quand on est touché directement par quelque chose, la chaleur, une émotion, face à un événement qu'on vit soi-même, alors qu'il existe d'autres cartes qui ne sont pas primitives, où là, on s'aperçoit que c'est qu'on est touché quand on voit quelqu'un d'autre être touché, quand on écoute un discours qui ne soit pas à nous, et ce qui permet justement à notre cerveau d'entrer en empathie. Et donc ça permet justement d'avoir dans un premier temps du plaisir à voir d'autres avoir du plaisir et donc d'avoir aussi ensemble le plaisir de partager de la musique. C'est-à-dire le fait de se dire, d'avoir des émotions sociales avec lesquelles on peut échanger. On se dit, on est fier d'avoir ces émulations sociales. Voilà. Le cerveau est donc un prédicateur. Et ce prédicateur est assez intéressant parce qu'il permet de changer la matière du cerveau. Il permet de progresser, d'apprendre, en créant de nouveaux neurones dans l'hippocampe, par exemple. Et bien sûr, pas simplement les neurones, leur connexion avec les synapses. Et donc, il y a une plasticité cérébrale qui fait qu'on peut, en écoutant du cerveau, en écoutant de la musique, on peut développer un cerveau, on peut ranger différemment. Et donc, ça permet d'apprendre en sculptant différemment son cerveau. Et donc, on s'aperçoit qu'à la fois, des articles sur Science montrent qu'un violoniste qui utilise plutôt son cerveau droit, alors que le pianiste utilisant la main gauche et la main droite utilise les deux, dans ces cas-là, on s'aperçoit que les cerveaux grossissent en fonction de l'usage qu'on en fait. C'est-à-dire que plus on pratique de la musique, plus on a notre cerveau qui grandit. Ce qu'on avait pu voir aussi, ce que certains ont déjà pu lire, on avait vu ça sur les taxis londoniens, où on s'aperçoit qu'on peut avoir les parties du cerveau qu'on utilise évoluent en fonction de l'usage qu'on leur donne. Et c'est ça une des magies de la plasticité du cerveau de l'homme. On a vu, la musique est un langage sans mots, une histoire dont on ne connaît pas l'histoire et qu'on transmet pourtant. Mais l'espèce humaine n'est pas la seule, à transmettre par le chant. Les oiseaux aussi ont la même démarche. Et c'est assez intéressant de voir que, tout comme le langage de l'homme a montré qu'il était articulé avec le chant, tout comme on s'aperçoit qu'en 2011, dans Nature et Neurosciences, Kantore Abe et Andobei Watanabe ont montré que le chant des oiseaux eux-mêmes avait une grammaire, était structuré un peu comme un opéra. Et donc c'est assez intéressant de pouvoir regarder comment est-ce que les oiseaux apprennent, parce que ça nous permet d'être en distance avec eux-mêmes, et bien sûr, de pouvoir tirer des leçons qui nous seront utiles pour répondre à la question, aux questions qu'on s'était posées, comment apprendre la musique. Il est quand même assez étrange et passionnant de voir que l'oiseau et l'homme, qui se sont séparés sur l'évolution de l'espèce il y a 300 millions d'années, ont chacun abouti à des choses qui sont assez similaires, avec des parcours qui n'ont rien à voir. Et donc c'est très intéressant de voir leur proximité sur la constitution du cerveau, sur l'usage du cerveau, de l'empathie, etc., sur l'être capable de voir le système phonatoire du chant, qui possède aussi l'oiseau, et donc ça permet effectivement de s'interroger sur cet animal étrange qui est notre cousin lointain. D'ailleurs, au Mali, les Bambara disent que c'est l'oiseau qui aurait donné la parole à l'homme, il y a donc 300 millions d'années, à vérifier tout de même. Ce qui est très intéressant sur les oiseaux, c'est que Peter Mahler, dans les années 70, a structuré l'analyse. Il a fait un gros travail avec des protocoles pour essayer de montrer un peu comment les oiseaux apprenaient, tout particulièrement les bruants, qui étaient les oiseaux qu'il étudiait. Il arrive à des conclusions assez intéressantes. Il en dénombre trois, puisqu'il a élevé des oiseaux dans des situations permettant des comparaisons, comme on dit, élevé à la main. Il a élevé des oiseaux, puis il est allé voir si effectivement les oiseaux qui n'avaient pas été enseignés, qui n'avaient pas eu de référent d'adultes, d'oiseaux adultes qui leur apprennent, comment ça fonctionnait. Et bien on s'aperçoit que si l'oiseau n'a pas un modèle qui leur est proposé, et bien il ne chante pas. Voilà. Il ne sait pas chanter, et donc le chant n'est pas inné, mais il est acquis pour une grosse partie. La capacité à chanter est innée, mais le chant lui-même nécessite d'avoir des modèles pour trouver l'harmonie que l'on va copier sur les grands oiseaux qui nous montrent le chemin. Donc ça, c'est assez intéressant de se dire, on n'apprend jamais seul. Voilà. Le fait de dire aussi que les oiseaux, quand ils apprennent one-to-one, quand ils sont de seul à seul, dans ces cas-là, ben, ils apprennent assez mal et ils ont besoin d'apprendre ensemble de façon à être stimulés par les autres, de façon à pouvoir apprendre d'apprentissage des autres. On se retrouve avec cette logique d'empathie dont on parlait tout à l'heure. Et donc, on a besoin d'apprendre ensemble. Même si on apprend seul, finalement, seul ensemble est la meilleure façon d'apprendre. Et puis le fait de pouvoir expérimenter de par soi-même, donc ça permet de se dire que est-ce que je suis en capacité d'essayer de faire par moi-même de façon à m'auto-corriger pour être capable de trouver mon champ, soit le champ qui est celui du modèle qu'on m'a donné, soit ma spécificité, puisque chacun peut enrichir le champ à son gré. Eh bien, on s'aperçoit que ces trois composantes qu'on retrouve chez les oiseaux, selon Peter Mahler, et on se retrouve avec quelque chose qui est assez facilement transposable chez l'homme. Et donc on retrouve aussi cette façon d'être transposable sur ce qu'on appelle une période sensible, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on apprend plus facilement. C'est dans le cas des bruants à couronne blanche, c'est le fait de dire ils ont 50 jours pour apprendre la musique, et donc c'est là où ils apprennent ou ils apprennent pas. Après, il est plus difficile d'apprendre. Ça crée plus d'inhibition et donc ça permet justement de se dire soit on profite de cet instant qui est souvent lié à l'enfance, soit après on peut apprendre, mais les apprentissages ne peuvent pas se faire de la même façon. Ces analyses qui étaient des années 70 ont été mises en évidence avec d'autres espèces et on s'aperçoit qu'on peut apprendre aussi quand les espèces sont mélangées, on peut apprendre entre les espèces. Donc c'est assez intéressant de voir, par exemple, Varrock disait qu'il apprenait du chant des oiseaux, eh bien on peut apprendre, les oiseaux peuvent apprendre aussi du chant d'autres espèces. Et donc, et plus la vie sociale est riche, plus les oiseaux sont capables d'apprendre. Donc ça veut dire que le chant est véritablement un langage social qui structure la pensée de l'homme. Alors, dans les années 90, on a fait une découverte assez intéressante sur le chant des oiseaux et sur comment est-ce qu'ils apprennent. Une expérience qui avait été portée sur les diamants mandarins en Australie, où les chercheurs avaient l'habitude de baguer les oiseaux pour les différencier et donc les référencer. Et l'habitude qu'ils avaient était d'avoir des bagues de même couleur. Alors évidemment, c'est pas une grande nouveauté, mais ça veut dire que ces bagues de même couleur étaient de couleur rouge. Et on s'aperçoit que finalement, les diamants mandarins, l'oiselle, choisissaient précisément ceux qui étaient avec les bagues rouges. Alors, la première réaction, c'est qu'à l'époque, on pensait que l'oiselle choisissait, et ça explique en quoi sert le chant, l'oiselle choisissait l'oiseau qui avait le chant le plus robuste. C'est-à-dire qu'on se dit, celui qui a les meilleures compositions physiques, celui qui est capable de faire des prouesses de chant dans ces cas-là, est celui que je vais choisir parce que c'est le meilleur parti pour assurer la descendance de l'espèce. Et d'ailleurs, c'était assez vrai, puisque l'oiselle, quand elle choisissait un oiseau, finalement, quand elle avait, après sa sélection, qui dépend beaucoup des espèces, quand c'était fondé sur le champ, il n'y avait pas que ça, ça pouvait être fondé sur le jardin, la façon dont les oiseaux faisaient le nid, par exemple, les couleurs qu'ils choisissaient, etc. On s'apercevait que, forcément, les œufs étaient beaucoup plus gros que si on imposait le choix à l'oiselle. Donc on est arrivé à l'idée de se dire que le chant servait à montrer un peu ses muscles quelque part, pour dire je suis capable de faire des prouesses assez particulières, et Loisel qui était en face se disait, bah finalement voilà l'homme qu'il me faut, et donc ça permettait de faire le choix. Avec ces histoires de bagues, se posait un problème, c'est qu'on s'apercevait que Loisel, préférant le rouge, choisissait systématiquement l'oiseau qui était bagué en rouge. Donc ce qui n'est pas en soi gênant, sauf que, ben, systématiquement ayant choisi l'oiseau bagué en rouge, eh bien on s'apercevait que les œufs étaient systématiquement les plus gros. Alors qu'en fait, ben, comme ils étaient tous bagués, ça n'avait plus rien à voir avec les capacités physiques, génétiques de l'animal, de l'oiseau. Alors comment est-ce qu'on explique ça? Eh bien tout simplement, c'est que comme l'oiselle aime le rouge, dans ces cas-là, quand elle voyait l'oiseau qui portait du rouge, elle aimait l'oiseau. Et comme elle aimait l'oiseau, bah dans ces cas-là, elle sécrétait de l'émotion, c'est-à-dire elle était amoureuse quelque part, et donc cette émotion-là, c'est cette émotion-là qui permettait d'avoir des œufs qui étaient de plus gros calibre que pour d'autres. Autrement dit, ce qui était intéressant, c'est que quand l'oiseau chantait, c'est pas tellement de montrer ses muscles, de montrer que c'était le plus fort, celui qui était le plus crédible en termes d'assurer la descendance de l'espèce, c'était surtout celui qui suscitait la plus belle émotion chez l'oiselle. Et l'oiselle qui avait une émotion, de par le chant, tout comme elle a pu l'avoir après avec la bague rouge, eh bien dans ces cas-là, choisissait l'oiseau qui lui a plu, qu'elle a aimé, et donc c'est de cet amour-là qu'est né le fait de pouvoir faire des gros œufs. Et donc ça veut dire que ce qui est assez intéressant, c'est qu'on s'est aperçu, grâce à cette erreur à l'origine des techniciens, on s'est aperçu que la musique servait bien à attirer l'autre, à susciter de l'émotion chez l'autre, de façon à pouvoir composer une vie avec oiseau et oiselle. Alors, quand on transpose ça à l'homme, qu'est-ce qu'on peut en dire? On a souvent cru qu'il fallait écouter. C'est ce qu'on appelait l'effet Mozart. J'écoute de la musique et si j'ai l'oreille universelle, dans ces cas-là, et certains sont dotés de cette, je suis capable, en écoutant régulièrement, de retransmettre. Si j'écoute toutes les 10 minutes, en 93, un article avait été publié qui n'a pas été reproduit, ce qu'on avait appelé l'effet Mozart, dans Nature, qui n'a pas été reproduit, donc on ne sait pas exactement si l'article, les conditions de réalisation de l'article, en écoutant de la musique, ben finalement on apprend. Voilà. Et donc on développe de l'intelligence musicale et on rentre dans l'univers de la musique. Donc faute de cet effet Mozart, ce qu'on a aujourd'hui démontré, de par les neurosciences, c'est que d'abord, il faut socialiser l'apprentissage de la musique. Le premier élément, c'est le fait de dire que il faut arriver à susciter une émulation, donner l'envie. Alors ça peut se faire par le fait de mobiliser tout le monde sur une expertise en disant on va essayer d'atteindre l'inatteignable, on va essayer d'être les meilleurs dans un élément, mais ça peut être aussi la curiosité, ça peut être le fait d'arriver à socialiser tout le monde en les mettant en mouvement, ça peut être en donnant des récompenses, hein, et donc en mobilisant tout le monde autour des récompenses. On s'aperçoit qu'en 2009, on avait montré que la récompense mobilisait tout le monde et permettait d'apprendre mieux. Voilà. En 2014, on a montré que, effectivement, pour pouvoir améliorer la mémorisation, alors on pouvait de la musique pour pouvoir anticiper davantage. Eh bien, quelque part, il suffisait que la personne s'auto-stimule. Autrement dit, si c'est trop facile, dans ces cas-là, le système de simulateur du cerveau se dit « j'y vais pas, c'est trop compliqué pour moi, c'est trop simple pour moi ». Dans ces cas-là, je trouve tout le temps, donc c'est pas hyper marrant. Donc il faut qu'il y ait des degrés, donc des niveaux de difficulté, donc que ce soit pédagogiquement organisé ainsi. Et pareillement, si le cerveau se dit « c'est trop compliqué pour moi, je ne pourrais pas atteindre, la première marche est trop haute pour moi », alors effectivement, le cerveau démissionne et se dit « je n'ai plus cette dimension de simulateur ». Et donc, je ne suis plus capable d'anticiper, et donc je réduis ma part de plaisir, et réduisant la part de plaisir que me procure le fait de pouvoir apprendre, eh bien, ça veut dire qu'effectivement, je me décourage tout simplement et je me dis ça en vaut pas la peine. Donc, ça veut dire que l'élément, le fait de pouvoir soit avoir cette récompense interne ou récompense externe, ça me permet justement de stimuler, de donner l'envie. Et on sait particulièrement que ce qui donne l'envie en formation, bah, c'est d'abord la capacité de contagion émotionnelle du formateur. C'est-à-dire que quand le formateur a cette capacité de transmettre des émotions positives, quand il est passionné par son sujet, alors la passion s'entend, se lit, et les gens, on les amène avec nous dans cette passion, en se disant, quelque part, on a dans cette lumière-là quelque chose que je veux retrouver. Et donc, cette façon d'amener les gens à cette émulation fait en sorte, on connaît tous le fait d'avoir des professeurs qui nous ont impressionnés dans des domaines qui étaient assez improbables, mais dont on s'est dit, c'est assez extraordinaire comme rencontre, et l'énergie positive de cette personne-là nous a donné l'envie de découvrir sa matière. Un bon professeur, c'est sans doute d'abord, avant quelqu'un qui connaisse sa matière, c'est quelqu'un qui donne l'envie de la découvrir, en se disant, venez avec moi, on rentre dans un univers magique, et dans cet univers-là, on va s'amuser ensemble, on va tous profiter de ce savoir-là. C'est cette gourmandise du savoir que le professeur doit être capable de socialiser. Alors, le deuxième élément important, c'est qu'il vaut mieux être acteur que d'être spectateur. Et donc, ça s'oppose à l'effet Mozart. Donc, il faut s'engager. Au lieu de montrer et que les gens regardent, eh bien, il faut leur faire faire de façon à ce qu'ils puissent apprendre en faisant faire des apprenants des makers. C'est l'exemple en 66 de L. de Richard et N. Allan, qui tous les deux avaient fait l'expérience des chatons. Donc, ils avaient pris deux chatons qui étaient dans un carrousel, donc qui tournaient autour d'un pivot. Donc, l'un faisait tourner le carrousel, et l'autre était sur une nacelle, et puis était porté par le mouvement. Et donc, on s'aperçoit que celui qui agit a été capable d'apprendre, s'adapter, changer ses positions. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, sa vision, il a appris et il s'est adapté à son environnement, alors que la personne, le chaton qui avait subi, qui était dans sa petite nacelle, bah finalement, il n'a rien appris, il s'est laissé porter par le mouvement sans avoir le fait d'y aller et de le faire. Autrement dit, ce qui est important aussi, c'est d'être capable d'engager l'action, d'être capable de s'organiser de façon à ce que les gens fassent, plutôt que de s'organiser pour que les gens regardent les autres faire. Et donc, et c'est un mix des deux, c'est-à-dire qu'on retrouve ça beaucoup dans les hackathons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut que les gens touchent, il faut que les gens fassent, et qu'en même temps qu'ils fassent, ils voient les autres faire, et que dans ce sentiment de « je fais », on ne soit pas bloqué par le jugement des autres, mais qu'il existe une fête, l'homo festivus, une fête pour justement être capable de créer cette émulation sociale qui dit « tout le monde y va ». Une des façons de favoriser cette émulation du faire, c'est très rapidement de ne pas intellectualiser ce qu'on doit faire, mais de faire et partir du faire, de partir de l'expérimentation, d'être capable, ce qu'on appellerait aujourd'hui de la pédagogie inversée. On laisse les gens faire, et quand ils ont réalisé quelque chose, dans ces cas-là, on peut en tirer des conclusions. Alors que si la pédagogie consiste à dire, la pédagogie classique, qui consiste à dire, je dis ce que je vais faire, j'explique le tenant, les aboutissants, le pourquoi, le comment, les méthodologies, qu'ensuite on les expérimente, alors dans ces cas-là, plus je vais monter en puissance l'analyse, la raison, plus je vais mettre en place des freins pour développer le passage à l'acte. Autrement dit, ce qui est intéressant, c'est quand on veut que les gens passent à l'acte, il faut leur donner l'envie et éviter de faire en sorte qu'ils ne partent pas avec toutes leurs idées. Un DRH d'une grande boîte internationale disait disait qu'il était intéressant de voir la différence entre une culture allemande et une culture française, c'est que les Français ont besoin de comprendre, de dialoguer, de discuter, quelque part, de pinailler avant, je suis d'accord, pas d'accord, j'ai des envies, j'ai des idées, etc. Et puis après, on passe à l'acte, donc, alors que les Allemands disent, bah, si on nous dit de le faire, on le fait et on voit si ça marche. Et donc, c'est deux approches assez différentes, mais qui peuvent être des freins, comme suivant les personnes qu'on a, et ce qui fait que certaines personnes, en touchant l'objet, en pratiquant un minimum, en pratiquant sur des exercices de bon niveau, permettent d'avoir du plaisir à faire. Et quand on voit qu'on est tous de même niveau, alors on s'aperçoit qu'on découvre tous ensemble. Et cette émulation de la découverte fait que ça crée une excitation qui reprend l'idée de plaisir personnel ou de plaisir collectif, ce qu'on retrouvait dans des auteurs comme Mathias Gruber en 2014 dans Neurone, qui avec une analyse d'IRM a montré que, donc d'ingénierie par résonance magnétique, fonctionnelle souvent, et donc ça veut dire qu'à partir de là, il montre bien l'anticipation des réponses, et quand effectivement j'anticipe le fait qu'il va y avoir un plaisir ou que je vois que tout le monde va avoir du plaisir, je sais que je vais avoir du plaisir avec tout le monde, et je suis porté par le plaisir des autres, ce qui me permet moi de pas avoir à porter la charge de mon apprentissage. Parce que c'est pas toujours évident d'être capable de gérer ses apprentissages dans de bonnes conditions. Et il n'est pas socialement intéressant de demander à une personne seule de porter un apprentissage qui est par définition collectif, dans le cadre d'une formation bien sûr. Donc, socialiser, favoriser l'engagement, et bien, et ensuite, corriger les erreurs. Et donc, on estime grosso modo que pour une personne normale, il faut à peu près 10 000 heures de pratique pour devenir un professionnel avec la musique. Donc, s'il faut pratiquer 10 000 heures, soit on fait en répétition automatique, en mode automatique, comme certains disaient à une époque, on apprend par cœur. Cette expression qui était un peu particulière, qui, quand on estimait que l'esprit était dans le cœur, donc on apprenait par cœur, cette façon de répéter automatiquement n'est pas, et pour arriver aux 10 000 heures, n'est pas la bonne méthode, puisque ces apprentissages automatiques font que l'homme s'absente de lui-même pour répéter automatiquement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que le cerveau puisse s'amuser. Et donc revenir à des systèmes qui ne soient pas « j'apprends pendant une heure, deux heures, trois heures d'affilée », ce qui permet cette automatisation, mais j'apprends de façon séquencée. Et le séquençage des apprentissages montre que d'abord, ça permet d'aller rechercher dans ses mémoires, et on verra avec l'épisode sur la mémoire l'importance que ça peut avoir. Être capable de consolider davantage les apprentissages, donc apprendre par petit temps, hein, surtout quand ce sont des choses qui sont très automatisées, mais aussi travailler sur la façon d'apprendre. On peut penser par exemple le fait de bien dormir, parce que quand on dort, et on reviendra aussi sur une émission prochaine sur le fait de la place du sommeil dans l'apprentissage, c'est le fait que on sait que l'apprentissage permet des consolidations et de stabiliser la mémoire. Ce qu'on a appris, on le réapprend pendant sa nuit, à une condition, c'est que la nuit soit suffisamment longue pour le faire, et que l'hippocampe permet justement de faire son travail, et on s'aperçoit que dormir, pour ceux qui veulent aller plus loin, et qui pourront pas attendre notre émission, Dieckelmann et Born dans Nature en 2010 ont montré que le sommeil était très important pour apprendre. Donc la meilleure façon de faire une bonne formation, c'est de permettre aux gens de faire la sieste. Et on s'aperçoit que culturellement, ça peut poser des interrogations. Mais en tout cas, on s'aperçoit que le cerveau était ainsi fait. Et si on veut que ce qu'on apprenne soit imprimé chez chaque individu et qu'elle puisse s'en resservir pour rechercher les choses, dans ces cas-là, il faudrait permettre à chacun de dormir davantage. Et ça serait un plus qui serait quelque chose d'intéressant. On s'aperçoit que ces trois éléments autour de la musique, permettent à chacun de progresser et d'apprendre. Maintenant que l'on sait comment est-ce qu'on apprend, on peut noter aussi qu'il existe, comme chez les oiseaux, une période dite sensible. C'est-à-dire que chez l'homme, si on doit apprendre de la musique, il vaut mieux apprendre la musique avant 7 ans. on apprend 10 fois plus vite qu'après. Donc, autrement dit, ben, cette période-là, c'est une période faste. Donc, si on a des enfants qui sont encore à moins de 7 ans, n'hésitez pas à leur faire apprendre de la musique. Ils vont apprendre plus facilement de la musique et ça va leur permettre d'imprimer des éléments qu'ils vont pouvoir ressolliciter plus tard. Alors, est-ce à dire, puisqu'on s'intéresse à l'adulte, que l'adulte, finalement, ça ne sert à rien de lui apprendre la musique? Autrement dit, que l'épisode qu'on vient de voir est un épisode qui ne sert à rien pour les adultes? Eh bien, pas du tout. Alors, vous voyez, donc les choses sont bien faites. Si on a 70 ans et qu'on découvre complètement la musique, eh bien, on s'aperçoit que d'abord, il faut écouter les sons. Il faut réorganiser les sons. On a vu que ça, on recrée des neurones, mais aussi, avec les neurones existants, on retravaille complètement la relation des réseaux de neurones, donc les synapses. Et donc, ça veut dire qu'on apprend, on réapprend, et on s'aperçoit que le son, si on travaille à partir de 70 ans, et qu'on découvre la musique, finalement, en retravaillant, on retrouve un cerveau de 50 ans. Donc, on gagne 20 ans quand on est dans ces âges-là. Alors bien évidemment, après, on peut, c'est pas linéaire, mais on peut retrouver les âges qui permettent justement de réapprendre. Mais c'est assez intéressant parce que ça permet à certains moments, comme on le dit souvent sur des mots croisés, la façon de reprendre l'idée qu'on avait présentée au début, c'est un jeu de l'esprit, de façon à pouvoir permettre au cerveau de s'amuser. Et quand il s'amuse pas, et qu'il s'amuse pas avec la musique ou avec autre chose, eh bien le cerveau s'oublie et puis il perd en plasticité. Voilà. Et tout le travail de ces domaines comme la musique ou d'autres secteurs, c'est de réapprendre à apprendre. Voilà. Le fait d'apprendre, quelles que soient les choses, c'est toujours utile. Ça peut être pareil sur des langues, etc. Ce qui est intéressant, puisqu'on arrive à la fin de cet épisode, c'est le fait de souligner un passage utile. Le très beau livre d'Isabelle Pérez, « Apprendre la musique ». Nouvelle des neurosciences chez Odile Jacob, qui était en 2018. Donc c'est un petit fascicule qui se lit très bien. Donc je vous invite effectivement à le lire pour ceux qui sont intéressés par le sujet. On retrouvera des éléments qui sont dedans, mais pas que. Ce qui est intéressant, cette neurologue spécialisée dans la musique, elle va plus loin que ce qu'on a vu. Elle dit « la musique rend meilleur ». Elle augmente l'altruisme. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand on chante ensemble, on apprend à collaborer. On apprend à écouter le son des autres. On apprend à se synchroniser les uns avec les autres. On apprend à laisser le temps à l'autre. On apprend à se tisser un lien social. Autrement dit, quand on chante ensemble, eh bien, dans ces cas-là, on s'aperçoit, et c'est vérifié par des études scientifiques. Alors, les études scientifiques montrent qu'on fait écouter des musiques qui sont désynchronisées, on écoute des chants qui ne sont pas en harmonie, etc. Eh bien, on s'aperçoit que quand on écoute de la musique ensemble et qu'on chante, on apprend à beaucoup mieux collaborer. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on collabore non pas simplement sur du langage et de la connaissance, mais on collabore au dehors du langage, c'est-à-dire avec le langage des émotions. Autrement dit, c'est très intéressant, on tisse des liens qui font collectif. Voilà. Souvent, on parle d'émulation partagée, c'est ça qui est intéressant. Et bien, dans l'émulation partagée, le conseil qu'on peut donner à chaque entreprise, c'est de créer des chorales d'entreprise. Alors évidemment, c'est si vous sentez l'âme de chanter à peu près juste, ou qu'il y en ait au moins un qui sache chanter juste, puisqu'on a vu qu'il fallait au moins avoir des gens qui construisaient des belles choses. Mais quand on parle d'émulation sociale, la voix, c'est lié au souffle, c'est lié au souffle de chacun. Et quand le souffle de chacun se met à disposition de l'autre, ça donne une force qui est beaucoup plus large que la simple force de chacun. Donc ça, c'est très intéressant et c'est ce qu'on retrouve dans les enquêtes que Isabelle Pérez a menées auprès de ses étudiants. Elle disait, quelles sont vos sources de bonheur? Eh bien, les sources de bonheur qui étaient régulièrement données par ses étudiants, c'était mettez la musique en troisième position. Alors, troisième position, derrière le sexe et le soleil, qui étaient les sources de bonheur, mais devant la nourriture. Ça veut dire que la musique n'est pas neutre, on ne sait pas bien comment socialement l'intégrer dans ce qu'on fait. On l'intègre au-delà de la raison, puisqu'on n'a pas ce savoir de connaître la place qu'on a, mais on s'aperçoit que depuis l'origine de l'espèce, la musique, le langage ont joué un jeu, une danse de l'esprit pour créer du lien social. Et quand on veut créer un territoire qui soit professionnel, qui soit un territoire émotionnel, le langage des émotions, qui est celui de la musique, permet justement d'apprendre ensemble. Et l'apprentissage étant par définition intime, dans ces cas-là, ça permet d'apprendre d'une certaine façon, avec une certaine intensité. Et cet apprentissage permet de mieux écouter l'autre, de mieux prendre en compte les autres. Et donc, le conseil de Isabelle Perez, et qui est celui que je vous soumets, c'est le fait de dire « apprenons ensemble ». On profitera tout à chacun d'être meilleur dans le sens où plus à l'écoute des autres, plus en humanité, avec cette définition de l'individu qui n'est pas un individu cartésien, qui sort du « je pense donc je suis », mais qui rentrerait sur un individu qui est plus relationnel, « tu penses donc je suis ». C'est-à-dire de se penser non pas comme un électron libre, mais prise dans une histoire, dans un réseau, ce que Michel Maffezoli appelle les tribus affectives, et qui fondent aujourd'hui la nouvelle façon de tisser des communautés suivant les courants qui sont les siens. Si vous avez aimé cet épisode, eh bien, n'hésitez pas à le faire savoir sur les plateformes qui sont les vôtres. Sur iTunes, n'hésitez pas à mettre des likes, mettre des commentaires. D'abord, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est une belle expérience. Si vous le faites pour nous, bah, ça nous permet nous d'être mieux référencés. Si vous êtes sur Google Play, n'hésitez pas. Spotify, on va l'être très bientôt. Donc, ça veut dire que n'hésitez pas à mettre des éléments. Ça permet à d'autres de découvrir. C'est gratuit. Et donc, ça permet justement de se faire connaître. N'hésitez pas à donner sur vos réactions sur la page LinkedIn de Format Radio. Donc vous allez sur Format Radio, vous avez la page LinkedIn sur laquelle vous pouvez donner vos éléments en disant peut-être que vous avez des compléments. J'aime bien l'idée des conversations, c'est-à-dire que moi j'ai versé l'histoire que je vous ai racontée, vous avez peut-être une histoire à raconter à côté, en complément. Eh bien, racontez votre histoire, il y a de la place pour toutes les histoires, et ceux qui vous liront profiteront des remarques qui sont les vôtres. Si vous avez aussi des remarques pour nous dire qu'on peut s'améliorer d'une façon ou d'une autre, dans ces cas, j'en tiens compte. Je le dis particulièrement pour ceux qui nous ont fait précédemment des remarques, même si j'en ai pas encore complètement tenu compte dans la réalité, en tout cas je m'organise pour en tenir compte. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment perçu comme quelque chose de très constructif et de très positif. Si vous voulez nous soutenir, nous avons un système sur Patreon qui est opérationnel, donc n'hésitez pas à donner 2 euros en disant que ça vous a intéressé, donc vous trouvez ça que ça vaut la peine, c'est le prix d'un café, donc voilà. Donc ça vous permet de gérer ça. Vous allez sur le site de formaradio.fr. Vous avez un élément sur Patreon pour nous soutenir. Et puis ça nous permettra aussi de vous dire que Format Radio, c'est votre radio. Donc on compte sur vous. Merci pour tous vos encouragements. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de s'entendre sur de nouvelles aventures scientifiques de la formation. Merci, à très bientôt.